La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Éphésiens chapitre 2, versets 7 à 10. Afin de nous montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, un petit peu spéciale. Il y avait un indice dans les chants qu'on a chantés. Debout, jeunesse. Aujourd'hui, c'est Global Youth Day, ou la journée mondiale de la jeunesse. Et donc, c'est pour ça que les jeunes, la jeunesse, a un programme aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on a inversé. Aujourd'hui, vous avez remarqué, vous êtes là un peu plus tôt que d'habitude. Et c'est pour permettre à la jeunesse, juste après le culte, de partir, car ils ont prévu d'organiser une expo, d'animer une expo santé. Et c'est pour ça que, à la fin du culte, on ira ensemble avec les jeunes pour ce programme-là. Ça, c'est la journée mondiale de la jeunesse, mais il y a aussi autre chose qui concerne la jeunesse. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour la jeunesse, puisque c'est la première journée de la semaine de prière JA, donc pour la jeunesse. Elle commence aujourd'hui et elle se poursuit donc chaque soir à partir de demain. Chaque soir, c'est marqué à 19h30. Donc de dimanche, lundi jusqu'à vendredi. Et je rappelle, ça concerne toute la jeunesse. Donc tous les jeunes sont invités à venir, mais aussi ceux qui se sentent jeunes dans l'âme. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Et le thème de cette semaine de prière pour la jeunesse, c'est la réforme. Alors pas la réforme sanitaire, quoique on pourrait être dans le thème avec l'expo santé, mais la réforme protestante. Pourquoi ça? En quelle année sommes-nous? 2017. 2017, très bien. Si on revient 500 ans en arrière, donc il y a tout juste 500 ans, un certain Martin Luther, alors pas Martin Luther King, hein, c'était qui Martin Luther King? Oui, un pasteur noir aux États-Unis, un activiste aussi qui luttait contre le racisme dans les années 60. Mais c'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui, on parle de Martin Luther. Et Martin Luther, cet Allemand, ce moine allemand, affichait, il y a tout juste 500 ans, sur la porte d'une église en Allemagne, à Wittenberg, un document qui allait changer la face du monde, en tout cas la face du monde religieux de l'époque. Et nous reviendrons un peu plus en détail sur le contenu de ce document. Hein? Mais d'abord, il faut commencer par évoquer un petit peu le contexte historique. Nous sommes donc fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. 50 ans auparavant, la chute d'une ville très importante. Cette ville a été reprise aux Byzantins, à l'Empire byzantin. Elle est tombée aux mains de l'Empire ottoman, donc les musulmans. Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que déjà vous arrivez à me dire de quelle ville il s'agit? Constantinople. Aujourd'hui, c'est Istanbul. C'est donc en Turquie. C'est la seule ville qui est à cheval sur deux continents, le continent asiatique et le continent européen. Et donc Constantinople tombe en 1453. Et pourquoi est-ce que c'est important que cette grande ville tombe et quel impact ça a eu? En fait, c'était la capitale de l'Empire byzantin, qu'on appelle aussi l'Empire romain d'Orient, donc l'Empire romain de l'Est. Et cet empire, il avait existé pendant plus de 1000 ans. Vous vous rendez compte, plus de 1000 ans? On est en 2017. Donc, ça fait 2000 ans que Jésus est né, 1000 ans, c'est la moitié de ça. Un empire qui a existé pendant plus de 1000 ans tombe soudainement. Alors soudainement non, parce qu'au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus petit. Mais c'est important aussi, et ça fait un coup à l'Église. À l'Église, à l'époque, il n'y en avait qu'une, c'était l'Église universelle, l'Église catholique. Et pendant longtemps, c'était la capitale de l'Empire romain de l'Ouest. Et la religion principale, c'était le christianisme. Et donc ça porte un petit peu un coup politique au christianisme, à l'Église, que voilà, cette ville est tombée. Ça, c'est la première chose. Mais est-ce que vous savez aussi qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XVe siècle? Un certain navigateur a découvert un nouveau continent. C'était bien sûr Christophe Colomb qui a découvert quoi? L'Amérique. L'Inde? Non, l'Amérique. Il était parti chercher l'Inde et en fait, c'est l'Amérique qu'il a découvert. Et ça, c'était en 1492. Alors ça apportait un autre coup à l'Église de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion que la Terre était plate. Cette notion qui était déduite de certains textes bibliques, que la Terre était plate. Et d'un coup, on réalise qu'en allant plus loin, on ne va pas tomber. Quand il n'y a plus d'eau, on va découvrir une nouvelle Terre. Et en fait, si on continue, on trouve l'autre continent. Et on peut faire le tour de notre planète. Ça veut dire que c'est une sphère. Et c'est pas la Terre n'est pas plate. Boum! Deuxième coup que l'Église se prend, mais sur le point de vue théologique cette fois-ci. Parce que pour eux, ils en avaient déduit que non, c'est la Terre est plate, c'est comme ça, la Bible nous le dit. Mais c'était mal comprendre ce que la Bible nous dit. Une autre invention aussi, un autre événement important de cette époque-là, en 1454, en Allemagne, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et pourquoi c'est important? Avant ça, il n'y avait pas d'imprimerie. À chaque fois qu'on voulait produire des documents, c'était des lettres, il fallait écrire. Et c'était les scribes qui reproduisaient les textes bibliques ou les choses comme ça. Et donc, l'imprimerie, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis aux différents documents de circuler et de s'étendre dans le monde entier beaucoup plus rapidement. Et ça, on va voir pourquoi ça a eu un impact vraiment important. Et dans ce contexte, nous découvrons ce cher Martin Luther. Il est jeune à l'époque, et un jour, il marche, il a 22 ans, et il marche de sa maison à l'université, mais il ne marche pas comme ça. Il marche comme ça. Pourquoi il marche comme ça? Parce qu'il y a un orage comme on n'en a jamais vu, comme lui n'en a jamais vu. Les éclairs, le tonnerre, la foudre qui tombe pas très loin. Il a peur. Il a très peur. Et il dit, Seigneur, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Et la foudre tombe juste à côté de lui. Et il se met à genoux, même à plat ventre. Il dit, Seigneur, Seigneur, épargne-moi, protège-moi. Si tu m'épargnes, je te promets, je deviendrai moine. Je me donne à ton service pour toute la vie. Et il survit. L'orage passe. Et bien sûr, il respecte sa promesse. Et il s'engage. Et il devient moine. Et dans son expérience, Martin Luther a cette difficulté à recevoir la grâce de Dieu. En tant que moine, il est toujours tourmenté. Parce que il pense qu'il doit la mériter, cette grâce. Et alors, il essaye par tous les moyens, il essaye d'être une bonne personne, de faire des bonnes actions. Mais plus il fait des bonnes actions, plus il réalise qu'il n'arrive pas à être parfait, qu'il n'arrive pas à mériter cette grâce. Et plus la paix de Dieu lui échappe. Et il est tourmenté. Il est tourmenté, Luther. Alors, son supérieur, qui le voit en souffrance, se dit... Il réfléchit trop, Luther. Il réfléchit trop, ce cher Martin. Il faut qu'on lui occupe son esprit. Et il va l'encourager à poursuivre une carrière académique, à étudier, à plonger son esprit dans les textes, dans la Bible, à approfondir. Tout ça pour pour sortir de ce cercle vicieux d'essayer de mériter cette grâce. Et c'est là que vraiment Luther prend conscience que le salut, que le fait d'être sauvé ne s'obtient pas par les œuvres, par ce qu'on fait, par être une bonne personne, mais par la foi, simplement en croyant en Christ. C'est ça qui nous sauve. Et alors, il continue à étudier. Ça l'intéresse tout ça. Il se passionne pour la Bible. Et il faut savoir que Luther était un élève brillant, était un homme très intelligent. Et voilà, en plus d'enseigner la philo, il étudie la théologie. Et voilà, au bout de 7 ans, tranquillement, eh ben, il a son doctorat. En plus, c'est pas fini. Il n'était pas juste ce genre de savant qui est né dans ses livres, qui plante sa tente à la bibliothèque. Non, non, non. Luther, il était aussi pasteur. Et donc, il était pasteur d'une église à Wittenberg. Et il était en lien avec ses membres. Il était en contact avec eux. Et tout ça lui a donné envie d'être pertinent. C'est-à-dire, il a voulu s'assurer que les membres, que les personnes à qui il parlait, comprenaient ce qu'il disait. Parce qu'il faut savoir que, à l'époque, alors c'est en Allemagne, on parlait pas, on ne prêchait pas, on ne faisait pas la messe, puisque c'était dans les églises catholiques. En allemand, c'était en quelle langue? En latin. Et combien de personnes dans le peuple parlaient le latin? Pas beaucoup. Ce qui fait que les membres venaient à l'église. Bien sûr, c'était fallait mériter son salut, hein, donc c'était un peu une obligation pour être sauvé. Ils s'asseyaient, ils écoutaient, et ils ne comprenaient rien. Et ils disaient, c'est bien, hein, ouais. Enfin, oui, sûrement, sûrement. Et quand c'était fini, comme nous, on va voir le prédicateur à la fin. Merci, merci, ça devait être super. J'ai pas compris, mais vous aviez le sourire, ça devait être vraiment chouette. Mais Luther, ça ne lui plaisait pas, ça. Luther, lui, il voulait être pertinent. Il voulait que ce qu'ils disent soit reçu, soit compris. Et alors, il a décidé de commencer à prêcher en allemand. Plus tard, il est même allé plus loin. Il a souhaité que la Bible, qui n'était elle aussi que disponible en latin à l'époque, soit aussi disponible en allemand, dans la langue du peuple, pour que les gens puissent accéder à la Bible. Mais alors, pourquoi est-ce que pour Luther, c'était si important d'avoir accès à la Bible, de la comprendre? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous, la Bible? Est-ce que c'est un livre historique, qui est un petit peu comme un manuel d'histoire, qui va nous évoquer tous les événements qui se sont passés? Alors oui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'éléments qui se sont passés, mais ce n'est pas le but de la Bible. La Bible n'est pas là pour nous dire une succession de dates en disant « voilà, ça s'est passé là ». Non, ce n'est pas ça le but de la Bible. Bah alors, est-ce que la Bible, c'est une liste de préceptes ou de règles qu'il faudrait suivre? Donc quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, hop, on se réfère à la Bible. Alinéa 4 de la page 67, dans ce cas-là, je dois faire ça. Non. Alors bien sûr qu'on retrouve des exemples de comportements, surtout quand on regarde la personne de Jésus. On a tellement à apprendre de ce qu'il a pu faire, de cet exemple pour nous dans son comportement, et de ça on peut en tirer des lois pour nous, des règles de vie. Mais ce n'est pas le but original de la Bible. La Bible n'est pas là pour nous dire comment faire ça, comment faire ça. C'est un livre qui donne du sens à notre vie. Par exemple, il nous dit pourquoi nous sommes là. La science va nous dire comment nous sommes là. Elle va nous expliquer des lois comme la gravité. Pourquoi est-ce que quand on prend une pomme et qu'on la lâche, elle tombe. Tout ça, c'est la science qui va nous expliquer comment fonctionne notre système. Mais c'est la Bible qui va nous dire pourquoi est-ce que nous sommes là. Et la Bible nous dit que le Créateur a voulu partager cette vie avec nous. finalement, nous sommes là pour profiter de la vie, c'est-à-dire pour prendre du plaisir en vivant. Mais pour prendre du plaisir en vivant, ce que nous dit la Bible, c'est qu'on doit, on doit rester connecté à Dieu. Plus on est proche de lui, et plus nous avons accès aux clés d'une vie épanouie. C'est ça la Bible. Mais la Bible, c'est aussi des rencontres, une multitude de rencontres. Finalement, la Bible est un livre, ou devrais-je dire plutôt une série de livres, parce que Bible vient du mot biblia, en latin, qui dit les livres. Parce que la Bible, c'est une succession de livres qui forment un tout cohésif. Et donc, au travers de toutes ces rencontres, Dieu cherche à faire quoi ? À établir un lien. Dieu cherche à nous rencontrer. Il veut établir un lien avec toute l'humanité. C'est au fond pour nous montrer comment ce Dieu si grand, et qui peut paraître parfois inatteignable, ben, la Bible elle nous montre que ce même Dieu-là, il est prêt à se connecter avec toi, avec moi, avec chacun de nous. Et pour ça, qu'est-ce qu'a fait Dieu ? Il est devenu humain. Il s'est incarné pour nous rencontrer physiquement, pas juste dans les prières, pas juste, mais vraiment physiquement, pour nous proposer de devenir son meilleur ami. Pour un petit peu comprendre ce concept, c'est un petit peu comme si, allez, il y a une ruche d'abeilles qui, on ne sait pour quelle raison, est prise de panique, et tout ensemble, elle vole, hop, elle voit une fenêtre ouverte, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Hop, elle s'infiltre toute dans la maison, et elle se retrouve bloquée dans la maison. Elle est où la fenêtre ? Elle est où la fenêtre ? Elle est où la sortie ? Il y a une fenêtre là, bam, 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 elle est fermée. C'est où, c'est où ? Et il y a une personne dans la maison qui a un petit peu peur de se faire piquer. Il ouvre la fenêtre là-bas. C'est là, c'est là, c'est là-bas, c'est là-bas. Mais bon, il ne parle pas abeille, hein ? Alors il ne sait pas trop comment faire. Et c'est comme si cette personne, elle s'était faite abeille, elle s'était transformée en abeille. Et elle va voir les abeilles. Elle dit, zzz, zzz, hey, c'est là-bas la sortie. C'est là-bas la vie. Là, vous êtes bloqués, vous tournez en rond. La vie, elle est là-bas. Suivez-moi. Et elle y va. Et les abeilles, ah, c'est là-bas, c'est là-bas. Zzz, zzz, zzz. Et elles y vont toutes. Et elles vont vers la vie. C'est un petit peu ce qu'a fait Jésus. Il s'est mis comme nous pour nous montrer où est-ce qu'elle est la vie. Mais la Bible, elle permet aussi de vérifier les choses. Par exemple, de confronter le mensonge des indulgences. Qu'est-ce que les indulgences ? On va revenir à ce fameux document, ce grand, un grand document que Luther avait cloué sur la porte de l'église à Wittenberg. Les indulgences, c'était finalement c'était un document produit par l'Église catholique qui, en gros, qui vendait au peuple et qui, voilà, en gros, permettait d'acheter son salut. Quand on achetait ça, eh ben, quelque part, on était garanti d'être sauvé. Alors, bien sûr, cet argent, ben, il servait à l'Église à construire des grandes cathédrales qu'on en voit au travers le monde, mais aussi à enrichir le clergé, enrichir les prêtres, les cardinaux, surtout les cardinaux, le pape et tout ça. Et bah malheureusement, ou plutôt heureusement, c'était non biblique ça. C'est-à-dire qu'on peut dire que, attention, il y a un problème là. Mais le pire, c'est que c'était surtout une façon d'exploiter le peuple. Parce que le peuple, il ne comprenait pas que ce n'était pas vrai. Il ne savait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne savait pas que ce n'était pas vrai ? Que c'était un mensonge ? Où est-ce qu'ils auraient pu, vérifier ça ? Où ? Dans la Bible. Et ils prenaient la Bible déjà. Il fallait qu'ils en trouvent une. Pas évident. Et s'ils regardaient, ben, c'était dans latin. C'est pour ça que Luther trouvait ça si important que le peuple puisse avoir accès à la Bible. Donc, quelque part, c'est une façon de remettre en question des traditions. Un exemple de tradition non biblique. Est-ce que vous savez, vous connaissez Napoléon, Napoléon Bonaparte? Il était grand, petit? Petit. Est-ce qu'il était petit? On apprend que finalement, il mesurait 1m69. Bon, c'est pas si petit que ça. Moi, je fais 1m72. Je suis pas très très grand, je suis pas non plus petit. À peu près normal, à peu près la taille, enfin normale. Taille standard, on va dire. 1m72, 1m69. Mais ce qui devient plus intéressant, c'est que vous savez que avec les années, la moyenne de la taille de nos populations, elle augmente. Alors je ne sais pas quelle est la taille à notre époque, mais en tout cas, à l'époque de Bonaparte, de Napoléon, la taille moyenne des hommes, c'était 1m65. Et lui, il faisait 1m69. C'est que non seulement il n'était pas petit, il n'était pas en dessous des 65, il était à 69, il était plus grand. C'était un grand, en fait, Napoléon Bonaparte. Alors pourquoi on pense qu'il était petit? Il y a des éléments. Quand on regarde le contexte, quand on retourne un peu dans le contexte, on voit que, en fait, il était souvent entouré sur les portraits, sur les tableaux de la garde des hommes de la garde impériale. C'est garde du corps, quelque part. Mais pour pouvoir entrer dans la garde impériale, il fallait faire une taille minimum. Il fallait des costauds, quand même. Il fallait faire minimum 1m70. Ah, déjà battu. Et donc, il n'y avait pas que des gens d'1m70, forcément. Il y en avait qui faisaient 1m75, il y en avait même qui faisaient 1m80. Il y avait des grands gaillards. Et lui, il est là, à côté. 1m69. Je ne suis pas petit, non. En plus, il était un petit peu trapu. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout fin, mais voilà, costaud. Donc ça n'aide pas au niveau proportion. On dit, ah bah oui, en fait, il est un peu petit. Et troisième chose, son chapeau. Son chapeau bicorne. Vous savez, hein, comme ça, là. C'est une forme qui est à lui, hein, mais c'était comme ça. Et à côté, les maréchaux, ils avaient des grands chapeaux. Ben là encore, ça n'aide pas, parce qu'on ne voit pas sous le chapeau jusqu'où elle va la tête. On voit juste le haut du chapeau. Tout ça fait que Napoléon passait pour un petit, alors qu'en fait, il était grand. Et ça, on peut le savoir que quand on regarde au contexte, quand on creuse un petit peu l'histoire. Et j'ai un autre exemple, mais cette fois-ci, il est biblique. La notion de confession. La notion de confession, elle est biblique, mais telle qu'il la vivait à l'époque, dans l'Église catholique romaine, c'était pas vraiment biblique. Parce qu'en fait, tout le monde se confessait à un prêtre. Dans un village, tout le monde allait se confesser à un prêtre, dire tout ce qu'il avait fait de pas bien, toutes ses erreurs, ils allaient voir le prêtre, une seule personne. Vous vous rendez compte? Le poids pour cette personne. Tous les mots de tous les différents drames, toutes les choses un peu cheloues, les différentes personnes, c'est lui qui portait tout ça. Quel poids. Mais en plus, ça lui donnait un sacré pouvoir. Parce que quand on commence à connaître tous les secrets de chacun à droite à gauche,